Chapitre 48. La première balle passe au-dessus de mon épaule. D'instinct, j'esquive et je vire à droite alors que du plâtre gicle à ma gauche. Une deuxième balle, une troisième, une quatrième. Lindy tire en rigolant. Peut-être même qu'elle ne vise pas. Elle s'amuse de me voir zigzaguer, sursauter, me baisser. Je résiste à l'envie de regarder par-dessus mon épaule pour savoir à quel point la mort est proche et je fonce, pieds nus, dans le couloir semé de débris. En stage d'autodéfense, un professeur nous a conseillé la fuite si jamais notre agresseur avait une arme à feu. Apparemment, il est étonnamment difficile de toucher une cible mouvante. Du moins, vos chances de survie seront plus grandes si vous fuyez un tireur à toutes jambes que si, par exemple, vous montez dans sa voiture et qu'il vous emmène dans un coin perdu où il pourra faire exactement ce qu'il voudra. Alors je pique un sprint. Ma respiration s'accélère. Coude au corps, tête rentrée dans les épaules, j'essaye de me faire plus petite. Mon pied rencontre un objet tranchant, puis un autre qui le transperce. Pas le temps de m'arrêter pour retirer les éclats de bois ou pire, les morceaux de verre. Je continue ma course et passe d'une zone du bâtiment plus ou moins civilisée à une sorte de chantier, où l'odeur de poussière et d'abandon est plus prononcée. Il fait trop sombre dans le couloir pour que je voie où je vais ou pour que j'adapte ma trajectoire de manière à éviter les débris les plus blessants. Encore des coups de feu. Je cours de plus belle. Une porte sur la droite, je m'y engouffre sans réfléchir, n'importe quoi pour sortir de sa ligne de mire. C'est seulement après coup que me vient l'idée qu'il pourrait s'agir d'une chambre, ou pire, d'une salle de bain, bref, d'une pièce sans issue, où je serais acculée. Mais en l'occurrence, on dirait encore une pièce commune. J'ai abandonné la théorie qui voudrait que je sois dans une maison traditionnelle de Boston. Le bâtiment est trop grand. Trop de couloirs, trop de pièces. Mais ce n'est pas un entrepôt, ni un bâtiment commercial. Les pièces sont trop petites. Un foyer d'accueil, peut-être? Désaffecté? En cours de rénovation, je ne sais pas. Je devrais m'arrêter. Essayer de me repérer, mais je n'arrive plus à raisonner. Je cours dans des couloirs et je me jette dans des bas-côtés sombres comme une biche aux abois. Je suis peut-être en train de pleurer, ce qui serait idiot. La dernière chose dont j'ai besoin à l'heure qu'il est, c'est de faire du bruit inutilement. Je m'engouffre dans une autre embrasure de porte, marche sur un objet tranchant et le sens s'enfoncer profondément dans ma plante de pied. C'est plus fort que moi. Je m'arrête net, sautille à cloche-pied, me mords la joue pour retenir un cri. Et à la réflexion, je me plaque dos au mur et j'essaye de me tenir le plus immobile possible. Respirer. Réfléchir. Respirer. Je ne peux pas continuer à courir comme une dératée dans un labyrinthe d'objets blessants et de pièces inconnues en attendant d'être acculée, prise pour cible, abattue. Il me faut une stratégie qui tienne la route face à une folle meurtrière armée d'un pistolet. Une femme qui attend depuis 5 ans de me faire la peau. Même si, pour être honnête, c'est réciproque. Je suis à bout de souffle. Je m'oblige à respirer profondément et j'essaye de calmer mon cœur qui bat à 100 à l'heure pour pouvoir guetter des bruits de pas. Et je me concentre. Lindy. Elle est là. À Boston. Elle m'a traquée. Elle est allée à la ferme de ma mère. Elle m'a découverte chez Devon Golding. Et elle m'a suivie jusqu'à mon appartement fermé à double tour où elle est entrée en se servant du passe-partout de mes propriétaires. Bien vu, la combine. Je n'avais jamais réalisé que même si je multipliais les verrous, mes propriétaires resteraient le maillon faible. Mais c'est certain, à l'âge qu'ils ont, ils oublient même une fois sur deux de fermer leurs portes. Et dès lors qu'elle avait leur clé. Lindy, dans mon appartement. Lindy qui m'a amenée ici pour terminer ce que Jacob avait commencé. Quelle crève! Cette pensée sans nuance, ce désir franc et impérieux me ramène à la situation, m'aide à calmer ma respiration. Je l'ai haïe du jour où j'ai vu Jacob la regarder, du jour où je l'ai vu se jeter à son cou pour l'accueillir, où ils ont discuté sur ce canapé, leur tête proche à se toucher. Et ensuite, elle m'a obligée à sortir, à aborder cette femme dans le bar. Je ne repense jamais à cette nuit-là, ni à aucune de celles qui ont suivi. Je ne parle pas d'elle, de Jacob, de ce qu'ils m'ont fait faire. Non, je garde ces souvenirs pour mes cauchemars, dont après toutes ces années, je me réveille encore en hurlant. Jacob m'a obligée à faire rouler les cadavres depuis son camion jusqu'aux herbes hautes des marécages le long de la route. Et ensuite, il m'a obligée à regarder jusqu'à ce que les alligators découvrent ces festins inattendus. Il ne disait jamais rien, mais il me regardait avec des yeux qui me confirmaient qu'un jour, je connaîtrais le même sort. Sauf que ce serait Lindy qui ferait rouler mon corps hors du camion et qu'elle battrait des mains de jubilation quand nos amis les bêtes viendraient chercher leur pitance. Lindy, ici à Boston. Lindy, quelque part dans le noir derrière moi. Quand je me suis inscrite à mon premier stage d'autodéfense, je suis sûre que ma mère a pensé que c'était d'autres Jacob que je m'entraînais à dégommer. Je ne l'ai jamais détrompé. Je ne lui ai jamais dit que chaque fois que je parais et décochais un coup, c'était une adversaire à peine plus âgée que moi et d'une beauté stupéfiante que je voyais dans ma tête. Et quand j'ai eu ma première arme à feu en main, c'est son visage que j'ai imaginé comme cible. Ça fait maintenant 5 ans que je m'entraîne à tuer Lindy. Chaque fois que je partais en mission, je me disais même que si j'arrivais à mener celle-là à bien, ça voudrait peut-être dire que j'étais prête pour la Floride. Mais je ne m'y suis jamais vraiment résolue. J'avais toujours une chose de plus à faire ici. Et puis après, bien sûr, il y a eu Stacy Summers. Je ne pouvais quand même pas l'abandonner. Et voilà le résultat. Je n'ai plus besoin de retrouver Lindy. C'est elle qui m'a retrouvée. Et je suis de nouveau une chief molle tremblante. Elle a un pistolet. J'ai un bout de verre déchiqueté. Elle est Lindy. Et moi, je suis... Je ne suis pas Molly, me rappelais-je. Pas Molly, pas Molly, pas Molly. Mais mon vieux sentiment d'impuissance me rattrape. Il me faut un plan. Tuer Lindy, terrasser le dragon, et peut-être qu'alors enfin je pourrai rentrer chez moi. Et ramener Stacy Summers par la même occasion. Je ne pense plus à la chambre de motel, ni à ce dernier jour. Au poids du pistolet de Jacob dans ma main, à l'écho de ma promesse dans son oreille ou à la sensation poisseuse de sa cervelle dans mes cheveux. J'imagine ma mère, à l'expression qu'elle avait dans ma cuisine l'autre matin, fière et résignée, tendre et réservée. La mère qui m'aime encore, même si elle sait que sa fille n'est jamais réellement revenue. Je veux rentrer maintenant. Je veux la prendre dans mes bras. Ma mère et ses chemises à carreaux ridicules. Je veux la serrer contre moi, et même si ça ne me fait plus le même effet qu'avant, je veux apprécier l'effet que ça fait aujourd'hui. Je ne veux plus survivre. Je veux vivre. Voilà, je les entends. Des bruits de pas. On s'avance lentement, furtivement, dans le couloir derrière moi. Lindy approche, sans doute le pistolet devant elle, le doigt sur la détente. Ressource, j'ai un morceau de verre coupant, déjà ensanglanté. J'ai des coudes, des genoux et un excellent coup de pied. En regardant autour de moi la pièce plongée dans l'obscurité, je ne vois pas de meubles, mais des monceaux de déchets divers. Ça pourrait être intéressant. Après tout, les poubelles m'ont déjà sauvé la vie une fois. Je me redresse et me prépare à fouiller les tas. Je suis en pleine possession de mes moyens. Je ne suis pas fatiguée, je n'ai pas faim, pas froid, pas mal. Je vais bien. Et je m'apprête à faire ce que je fais le mieux, tout ce qu'il faudra pour survivre. Didi s'arrêta net, la main sur le bras de Keynes, et se tourna vers la source du bruit. Là-bas, murmura-t-elle en entendant claquer un nouveau coup de feu. Une fusillade. Le deuxième bâtiment à droite, répondit Keynes. Elle éclaira le bâtiment avec sa lampe torche, un immeuble imposant en briques décolorées. Elle ne voyait aucun ray de lumière au bord des planches qui fermaient les fenêtres, mais juste au moment où elle allait se tourner vers le bâtiment suivant, 3 nouvelles détonations se firent entendre coup sur coup. C'est celui-là, confirma-t-elle. Elle affermit sa prise sur le 38. Et ils commencèrent leur approche.